La prisonnière, chapitre 2. Les vers du Rhin se brouillent avec Monsieur de Charlus. Après le dîner, je dis à Albertine que j'avais envie de profiter de ce que j'étais levée pour aller voir des amis. Madame de Villeparisis, Madame de Guermantes, les Cambremer, je ne savais trop. Ceux que je trouverais chez eux. Je tus seulement le nom de ceux chez qui je comptais aller, les vers du Rhin. Je lui demandai si elle ne voulait pas venir avec moi. Elle allégua qu'elle n'avait pas de robe. Et puis, je suis si mal coiffée. Est-ce que vous tenez à ce que je continue à garder cette coiffure? Et pour me dire adieu, elle me tendit la main de cette façon brusque, le bras allongé, les épaules se redressant, qu'elle avait jadis sur la plage de Balbec et qu'elle n'avait plus jamais eu depuis. Ce mouvement oublié refit du corps qui l'anima celui de cette Albertine qui me connaissait encore à peine. Il rendit à Albertine, cérémonieuse sous un air de brusquerie, sa nouveauté première, son inconnu, et jusqu'à son cadre. Je vis la mère derrière cette jeune fille que je n'avais jamais vue me saluer ainsi depuis que je n'étais plus au bord de la mer. « Ma tante trouve que cela me vieillit, » ajouta-t-elle d'un air maussade. « Puisse sa tante dire vrai, » pensais-je. Qu'Albertine, en ayant l'air d'une enfant, fasse paraître Madame Bontemps plus jeune, c'est tout ce que celle-ci demande, et qu'Albertine aussi ne lui coûte rien, en attendant le jour où, en m'épousant, elle lui rapportera. Mais qu'Albertine parut moins jeune, moins jolie, fit moins retourner les têtes dans la rue, voilà ce que moi, au contraire, je souhaitais. Car la vieillesse d'une duègne ne rassure pas tant un amant jaloux que la vieillesse du visage de celle qu'il aime. Je souffrais seulement que la coiffure que je lui avais demandé d'adopter pût paraître à Albertine une claustration de plus. Et ce fut encore ce sentiment domestique nouveau qui ne cessa, même loin d'Albertine, de m'attacher à elle, comme un lien. Je dis à Albertine, peu en train, m'avait-elle dit, pour m'accompagner chez les Guermantes ou les Cambremer, que je ne savais trop où j'irais, et partis chez les vers du Rhin. Au moment où la pensée du concert que j'y entendrais me rappela la scène de l'après-midi, grand pied de grue, scène d'amour déçu, d'amour jaloux peut-être, mais alors aussi bestiale que celle que, à la parole près, peut faire à une femme un orang-outan qui en est, si l'on peut dire, épris. Au moment où, dans la rue, j'allais appeler un fiacre, j'entendis des sanglots qu'un homme, qui était assis sur une borne, cherchait à réprimer. Je m'approchai. L'homme, qui avait la tête dans ses mains, avait l'air d'un jeune homme, et je fus surpris de voir, à la blancheur qui sortait du manteau, qu'il était en habit et en cravate blanche. En m'entendant, il découvrit son visage, inondé de pleurs, mais aussitôt, m'ayant reconnu, le détourna. C'était Morel. Il comprit que je l'avais reconnu, et, tâchant d'arrêter ses larmes, il me dit qu'il s'était arrêté un instant, tant il souffrait. « J'ai grossièrement insulté aujourd'hui même, me dit-il, une personne pour qui j'ai eu de très grands sentiments. C'est d'un lâche, car elle m'aime. » Avec le temps, elle oubliera peut-être, répondis-je, sans penser qu'en parlant ainsi, j'avais l'air d'avoir entendu la scène de l'après-midi. Mais il était si absorbé dans son chagrin qu'il n'eut même pas l'idée que je pusse savoir quelque chose. « Elle oubliera peut-être, me dit-il, mais moi, je ne pourrai pas oublier. J'ai le sentiment de ma honte, j'ai un dégoût de moi. » Mais enfin, c'est dit, rien ne peut faire que ce n'ait pas été dit. Quand on me met en colère, je ne sais plus ce que je fais. Et c'est si malsain pour moi. J'ai les nerfs tout entrecroisés les uns dans les autres. » Car, comme tous les neurasthéniques, il avait un grand souci de sa santé. Si, dans l'après-midi, j'avais vu la colère amoureuse d'un animal furieux, Ce soir, en quelques heures, des siècles avaient passé, et un sentiment nouveau, un sentiment de honte, de regret et de chagrin, montrait qu'une grande étape avait été franchie dans l'évolution de la bête destinée à se transformer en créature humaine. Malgré tout, j'entendais toujours « grand pied de grue » et je craignais une prochaine récurrence à l'état sauvage. Je comprenais, d'ailleurs, très mal ce qui s'était passé. Et c'est d'autant plus naturel que M. de Charlus lui-même ignorait entièrement que depuis quelques jours, et particulièrement ce jour-là, même avant le honteux épisode qui ne se rapportait pas directement à l'état du violoniste, Morel était repris de neurasthénie. En effet, il avait, le mois précédent, poussé aussi vite qu'il avait pu, beaucoup plus lentement qu'il eût voulu, la séduction de la nièce de Jupien, avec laquelle il pouvait, en tant que fiancé, sortir à son gré. Mais dès qu'il avait été un peu loin dans cette entreprise avec le viol, et surtout quand il avait parlé à sa fiancée de se lier avec d'autres jeunes filles qu'elle lui procurerait, il avait rencontré des résistances qui l'avaient exaspéré. Du coup, soit qu'elle eût été trop chaste, ou au contraire se fût donnée, son désir était tombé. Il avait résolu de rompre. Mais sentant le baron bien plus moral, quoique vicieux, il avait peur que, dès sa rupture, M. de Charlus ne le mît à la porte. Aussi avait-il décidé, il y avait une quinzaine de jours, de ne plus revoir la jeune fille, de laisser M. de Charlus et Jupien se débrouiller. Il employait un verbe plus cambronesque, entre eux, et, avant d'annoncer la rupture, de « foutre le camp » pour une destination inconnue. Bien que la conduite qu'il avait eue avec la nièce de Jupien fût exactement superposable, dans les moindres détails, avec celle dont il avait fait la théorie devant le baron pendant qu'il dînait à Saint-Mars-le-Vêtu, il est probable qu'elles aient été fort différentes et que des sentiments moins atroces et qu'il n'avait pas prévu dans sa conduite théorique avaient embelli, rendu sentimentale sa conduite réelle. Le seul point où, au contraire, la réalité était pire que le projet, est que dans le projet, il ne lui paraissait pas possible de rester à Paris après une telle trahison. Maintenant, au contraire, vraiment foutre le camp pour une chose aussi simple lui paraissait beaucoup. C'était quitter le baron, qui sans doute serait furieux, et briser sa situation. Il perdrait tout l'argent que lui donnait le baron. La pensée que c'était inévitable lui donnait des crises de nerfs. Il restait des heures à larmoyer. Prenait, pour ne pas y penser, de la morphine avec prudence. Puis, tout à coup, s'était trouvée dans son esprit une idée qui sans doute y prenait peu à peu vie et forme depuis quelque temps. Et cette idée était que l'alternative, le choix entre la rupture et la brouille complète avec M. de Charlus, n'était peut-être pas forcé. Perdre tout l'argent du baron était beaucoup. Morel, incertain, fut pendant quelques jours plongé dans des idées noires, comme celles que lui donnait la vue de Bloch. Puis il décida que Jupien et sa nièce avaient essayé de le faire tomber dans un piège, qu'il devait s'estimer heureux d'en être quitte à si bon marché. Il trouvait, en somme, que la jeune fille était dans son tort d'avoir été si maladroite, de n'avoir pas su le garder par les sens. Non seulement le sacrifice de sa situation chez M. de Charlus lui semblait absurde, mais il regrettait jusqu'au dîner dispendieux qu'il avait offert à la jeune fille depuis qu'ils étaient fiancés, et desquels il eût pu dire le coup en fils de valet de chambre qui venait tous les mois apporter son livre à mon oncle. Car livre au singulier, qui signifie « ouvrage imprimé » pour le commun des mortels, perd ce sens pour les altesses et pour les valets de chambre. Pour les seconds, il signifie le livre de compte. Pour les premières, le registre où on s'inscrit. À Balbec, un jour où la princesse de Luxembourg m'avait dit qu'elle n'avait pas emporté deux livres, j'allais lui prêter « Pêcheur d'Islande » et « Tartarin de Tarascon ». quand je compris ce qu'elle avait voulu dire. Non qu'elle passerait le temps moins agréablement, mais que je pourrais plus difficilement mettre mon nom chez elle. Malgré le changement de point de vue de Morel quant aux conséquences de sa conduite, bien que celle-ci lui eût semblé abominable il y a 2 mois, quand il aimait passionnément la nièce de Jupien, et que depuis 15 jours il ne cessa de se répéter que cette même conduite était naturelle, louable, elle ne laissait pas d'augmenter chez lui l'état de nervosité dans lequel, tantôt, il avait signifié la rupture. Et il était tout prêt à passer sa colère, sinon, sauf dans un accès momentané, sur la jeune fille envers qui il gardait ce reste de crainte, dernière trace de l'amour, du moins sur le baron. Il se garda cependant de lui rien dire avant le dîner, car, mettant au-dessus de tout sa propre virtuosité professionnelle, au moment où il avait des morceaux difficiles à jouer, comme ce soir chez les Verdurin, il évitait, autant que possible, et c'était déjà bien trop que la scène de l'après-midi, tout ce qui pouvait donner à ses mouvements quelque chose de saccadé. Tel un chirurgien passionné d'automobilisme cesse de conduire quand il a à opérer. C'est ce qui m'explique que, tout en me parlant, il faisait remuer doucement ses doigts, l'un après l'autre, afin de voir s'ils avaient repris leur souplesse. Un froncement du sourcil s'ébaucha, qui semblait signifier qu'il y avait encore un peu de raideur nerveuse. Mais, pour ne pas l'accroître, il déplissait son visage, comme on s'empêche de s'énerver, de ne pas dormir, ou de ne pas posséder aisément une femme, de peur que la phobie elle-même retarde encore l'instant du sommeil ou du plaisir. Aussi, désireux de reprendre sa sérénité, afin d'être comme d'habitude tout à ce qu'il jouerait chez les Verdurin, et désireux, tant que je le verrais, de me permettre de constater sa douleur, le plus simple lui parut de me supplier de partir immédiatement. La supplication était inutile, et le départ m'était un soulagement. J'avais tremblé qu'allant dans la même maison, à quelques minutes d'intervalle, il ne me demanda de le conduire, et je me rappelais trop la scène de l'après-midi pour ne pas éprouver quelque dégoût à avoir Morel auprès de moi pendant le trajet. Il est très possible que l'amour, puis l'indifférence ou la haine de Morel à l'égard de la nièce de Jupien, eussent été sincères. Malheureusement, ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi, qu'il plaquait brusquement une jeune fille à laquelle il avait juré de l'aimer toujours, allant jusqu'à lui montrer un revolver chargé en lui disant qu'il se ferait sauter la cervelle s'il était assez lâche pour l'abandonner. Il ne l'abandonnait pas moins ensuite et éprouvait, au lieu de remords, une sorte de rancune. Ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi. Ce ne devait pas être la dernière. De sorte que bien des têtes de jeunes filles moins oublieuses de lui qu'il n'était d'elles, souffrirent, comme souffrit longtemps encore la nièce de Jupien, continuant à aimer Morel, tout en le méprisant. Souffrir, prêtes à éclater sous l'élancement d'une douleur interne, parce que, en chacune d'elles, comme le fragment d'une sculpture grecque, un aspect du visage de Morel, dur comme le marbre et beau comme l'antique, était enclos dans leur cervelle, avec ses cheveux en fleurs, ses yeux fins, son nez droit, formant protubérance pour un crâne non destiné à le recevoir et qu'on ne pouvait pas opérer. Mais à la longue, ces fragments si durs finissent par glisser jusqu'à une place où ils ne causent pas trop de déchirement, n'en bougent plus. On ne sent plus leur présence. C'est l'oubli ou le souvenir indifférent. J'avais en moi 2 produits de ma journée. C'était d'une part, grâce au calme apporté par la docilité d'Albertine, la possibilité et, en conséquence, la résolution de rompre avec elle. C'était, d'autre part, fruit de mes réflexions pendant le temps que je l'avais attendue, assis devant mon piano, l'idée que l'art, auquel je tâcherais de consacrer ma liberté reconquise, n'était pas quelque chose qui valût la peine d'un sacrifice, quelque chose d'en dehors de la vie, ne participant pas à sa vanité et son néant. L'apparence d'individualité réelle, obtenue dans les œuvres, n'étant due qu'au trompe-l'œil de l'habileté technique. Si mon après-midi avait laissé en moi d'autres résidus, plus profonds peut-être, ils ne devaient venir à ma connaissance que bien plus tard. Quant aux deux que je soupesais clairement, ils n'allaient pas être durables. Car, dès cette soirée même, mes idées sur l'art allaient se relever de la diminution qu'elles avaient éprouvée l'après-midi, tandis qu'en revanche, le calme, et par conséquent la liberté qui me permettrait de me consacrer à lui, allaient m'être de nouveau retirés. Comme ma voiture, longeant le quai, approchait de chez les Verdurin, je la fis arrêter. Je venais en effet de voir Brichot descendre de tramway au coin de la rue Bonaparte, essuyer ses souliers avec un vieux journal et passer des gants gris-perle. J'allais à lui. Depuis quelque temps, son affection de la vue ayant empiré, il avait été doté, aussi richement qu'un laboratoire, de lunettes nouvelles, puissantes et compliquées, qui, comme des instruments astronomiques, semblaient vissés à ses yeux. Il braqua sur moi leurs feux excessifs et me reconnut. Elles étaient en merveilleux état. Mais derrière elles, j'aperçus, minuscule, pâle, convulsif, expirant, un regard lointain, placé sous ce puissant appareil. Comme dans les laboratoires trop richement subventionnés pour les besognes qu'on y fait. On place une insignifiante bestiole agonisante sous les appareils les plus perfectionnés. J'offris mon bras au demi-aveugle pour assurer sa marche. « Ce n'est plus cette fois près du Grand Cherbourg que nous nous rencontrons, » me dit-il, « mais à côté du petit Dunkerque. » Phrase qui me parut fort ennuyeuse, car je ne compris pas ce qu'elle voulait dire. Et cependant, je n'osais pas le demander à Brichot, par crainte moins encore de son mépris que de ses explications. Je lui répondis que j'étais assez curieux de voir le salon où Swann rencontrait jadis tous les soirs Odette. « Comment, vous connaissez ces vieilles histoires ?» me dit-il. Il y a pourtant de cela jusqu'à la mort de Swann, ce que le poète appelle à bon droit « grande spatium mortalis evi ». La mort de Swann m'avait à l'époque bouleversé. La mort de Swann. Swann ne joue pas dans cette phrase le rôle d'un simple génitif. J'entends par là la mort particulière, la mort envoyée par le destin au service de Swann. Car nous disons la mort, pour simplifier, mais il y en a presque autant que de personnes. Nous ne possédons pas de sens qui nous permette de voir, courant à toute vitesse, dans toutes les directions, les morts actives dirigées par le destin vers tel ou tel. Souvent, ce sont des morts qui ne seront entièrement libérées de leurs tâches que 2-3 ans après. Elles courent vite poser un cancer au flanc d'un Swann, puis repartent pour d'autres besognes, ne revenant que quand, l'opération des chirurgiens ayant eu lieu, il faut poser le cancer à nouveau. Puis vient le moment où on lit dans le Gaulois que la santé de Swann a inspiré des inquiétudes, mais que son indisposition est en parfaite voie de guérison. Alors, quelques minutes avant le dernier souffle, la mort, comme une religieuse qui vous aurait soigné au lieu de vous détruire, vient assister à vos derniers instants, couronne d'une auréole suprême, l'être à jamais glacé, dont le cœur a cessé de battre. Et c'est cette diversité des morts, le mystère de leur circuit, la couleur de leur fatale écharpe, qui donne quelque chose de si impressionnant aux lignes des journaux. Nous apprenons avec un vif regret que M. Charles Swann a succombé hier à Paris, dans son hôtel, des suites d'une douloureuse maladie. Parisien dont l'esprit était apprécié de tous, Comme la sûreté de ses relations choisies, mais fidèles, il sera unanimement regretté. Aussi bien dans les milieux artistiques et littéraires, où la finesse avisée de son goût le faisait se plaire et être recherché de tous, qu'au Jockey Club, dont il était l'un des membres les plus anciens et les plus écoutés. Il appartenait aussi au cercle de l'Union et au cercle agricole. Il avait donné depuis peu sa démission de membre du cercle de la rue Royale. Sa physionomie spirituelle, comme sa notoriété marquante, ne laissait pas d'exciter la curiosité du public. Dans tout great event de la musique et de la peinture, et notamment au vernissage, dont il avait été l'habitué fidèle jusqu'à ces dernières années, où il n'était plus sorti que rarement de sa demeure. Les obsèques auront lieu, etc. À ce point de vue, si l'on n'est pas quelqu'un, l'absence de titres connus rend plus rapide encore la décomposition de la mort. Sans doute, c'est d'une façon anonyme, sans distinction d'individualité, qu'on demeure le duc d'Uzès. Mais la couronne ducale en tient quelque temps ensemble les éléments, comme ceux de ces glaces aux formes bien dessinées qu'appréciait Albertine, tandis que les noms de bourgeois ultramondains, aussitôt qu'ils sont morts, se désagrègent et fondent, démoulés. Nous avons vu Madame de Guermantes parler de Cartier comme du meilleur ami du duc de la Trémoille, comme d'un homme très recherché dans les milieux artistiques. Pour la génération suivante, Cartier est devenu quelque chose de si informe qu'on le grandirait presque en l'apparentant au bijoutier Cartier, avec lequel il eût souri que des ignorants pussent le confondre. Swann était, au contraire, une remarquable personnalité intellectuelle et artistique. Et bien qu'il n'eût rien produit, il eut la chance de durer un peu plus. Et pourtant, cher Charles Swann, que j'ai connu quand j'étais encore si jeune, et vous près du tombeau, c'est parce que celui que vous deviez considérer comme un petit imbécile a fait de vous le héros d'un de ses romans qu'on recommence à parler de vous, et que peut-être vous vivrez. Si dans le tableau de Tissot, représentant le balcon du cercle de la rue Royale, où vous êtes entre Galifet, Edmond de Polignac et Saint-Maurice, on parle tant de vous, c'est parce qu'on voit qu'il y a quelques traits de vous dans le personnage de Swann. Pour revenir à des réalités plus générales, c'est de cette mort prédite et pourtant imprévue de Swann que je l'avais entendu parler lui-même à la duchesse de Guermantes, le soir où avait eu lieu la fête chez la cousine de celle-ci. C'est la même mort dont j'avais retrouvé l'étrangeté spécifique et saisissante un soir où j'avais parcouru le journal et où son annonce m'avait arrêté net, comme tracée en mystérieuses lignes inopportunément interpolées. Elles avaient suffi à faire d'un vivant quelqu'un qui ne peut plus répondre à ce qu'on lui dit. Qu'un nom écrit, passé tout à coup du monde réel dans le royaume du silence. C'était elle qui me donnait encore maintenant le désir de mieux connaître la demeure où avaient autrefois résidé les Verdurin et où Swann, qui alors n'était pas seulement quelques lettres passées dans un journal, avait si souvent dîné avec Odette. Il faut ajouter aussi, et cela me rendit longtemps la mort de Swann plus douloureuse qu'une autre, bien que ses motifs n'eussent pas trait à l'étrangeté individuelle de sa mort, que je n'étais pas allée voir Gilberte comme je le lui avais promis chez la princesse de Guermantes, qu'il ne m'avait pas appris cette autre raison à laquelle il avait fait allusion ce soir-là, pour laquelle il m'avait choisi comme confident de son entretien avec le prince. Que mille questions me revenaient, comme des bulles montant du fond de l'eau, que je voulais lui poser sur les sujets les plus disparates, sur Vermeer, sur Monsieur de Mouchy, sur lui-même, sur une tapisserie de boucher, sur Combray. Questions sans doute peu pressantes, puisque je les avais remises de jour en jour, mais qui me semblaient capitales depuis que, ses lèvres s'étant scellées, la réponse ne viendrait plus. Mais non, reprit Brichot, ce n'était pas ici que Swann rencontrait sa future femme. Ou du moins, ce ne fut ici que dans les tout à fait derniers temps, après le sinistre qui détruisit partiellement la première habitation de Madame Verdurin. Malheureusement, dans la crainte d'étaler aux yeux de Brichot un luxe qui me semblait déplacé, puisque l'universitaire n'en prenait pas sa part, j'étais descendu trop précipitamment de la voiture, et le cocher n'avait pas compris ce que je lui avais jeté à toute vitesse pour avoir le temps de m'éloigner de lui avant que Brichot m'aperçût. La conséquence fut que le cocher vint nous accoster et me demanda s'il devait venir me reprendre. Je lui dis en hâte que oui, et redoublai d'autant plus de respect à l'égard de l'universitaire venu en omnibus. « Ah, vous étiez en voiture !» me dit-il d'un air grave. « Mon Dieu, par le plus grand des hasards, cela ne m'arrive jamais. Je suis toujours en omnibus ou à pied. Mais cela me vaudra peut-être le grand honneur de vous reconduire ce soir, si vous consentez pour moi à entrer dans cette guimbarde. Nous serons un peu serrés, mais vous êtes si bienveillant pour moi. » Hélas, en lui proposant cela, je ne me prive de rien, pensais-je, puisque je serai toujours obligé de rentrer à cause d'Albertine. Sa présence chez moi, à une heure où personne ne pouvait venir la voir, me laissait disposer aussi librement de mon temps que l'après-midi, quand, au piano, je savais qu'elle allait revenir du Trocadéro, et que je n'étais pas pressé de la revoir. Mais enfin, comme l'après-midi aussi, je sentais que j'avais une femme, et qu'en rentrant, je ne connaîtrais pas l'exaltation fortifiante de la solitude. « J'accepte de grand cœur, » me répondit Brichot. À l'époque à laquelle vous faites allusion, nos amis habitaient rue Montalivet, un magnifique rez-de-chaussée, avec entresol donnant sur un jardin, moins somptueux évidemment, et que pourtant je préfère à l'hôtel des ambassadeurs de Venise. Brichot m'apprit qu'il y avait ce soir, au Quai Conti, c'est ainsi que les fidèles disaient en parlant du salon Verdurin depuis qu'il s'était transporté là. Grand tralala musical, organisé par M. de Charlus. Il ajouta qu'aux temps anciens dont je parlais, le petit noyau était autre et le ton différent, pas seulement parce que les fidèles étaient plus jeunes. Il me raconta des farces d'Elstir, ce qu'il appelait de pure pantalonnade. Comme un jour où celui-ci, ayant faim de lâcher au dernier moment, était venu déguisé en maître d'hôtel extra et, tout en passant les plats, avait dit des gaillardises à l'oreille de la très prude baronne Pudbus, rouge d'effroi et de colère. Puis, disparaissant avant la fin du dîner, avait fait apporter dans le salon une baignoire pleine d'eau, d'où, quand on était sorti de table, il était émergé, tout nu, en poussant des jurons. Et aussi des soupers où on venait dans des costumes en papier, dessinés, coupés, peints par Elstir, qui étaient des chefs-d'œuvre. Brichot ayant porté une fois celui d'un grand seigneur de la cour de Charles VII, avec des souliers à la poulaine, et une autre fois celui de Napoléon Ier, où Elstir avait fait le grand cordon de la Légion d'honneur avec de la cire à cacheter. Bref, Brichot, revoyant dans sa pensée le salon d'alors, avec ses grandes fenêtres, ses canapés bas mangés par le soleil de midi et qu'il avait fallu remplacer, déclarait pourtant qu'il le préférait à celui d'aujourd'hui. Certes, je comprenais bien que par « salon », Brichot entendait, comme le mot « église » ne signifie pas seulement l'édifice religieux, mais la communauté des fidèles, non pas seulement l'entresol, mais les gens qui le fréquentaient, les plaisirs particuliers qu'il venait chercher là, et auxquels, dans sa mémoire, avaient donné leur forme ces canapés sur lesquels, quand on venait voir Madame Verdurin l'après-midi, on attendait qu'elle fût prête. Cependant que les fleurs des marronniers, dehors, et sur la cheminée des œillets dans des vases, semblaient, dans une pensée de gracieuse sympathie pour le visiteur, que traduisait la souriante bienvenue de ses couleurs roses, épiait fixement la venue tardive de la maîtresse de maison. Mais si le salon lui semblait supérieur à l'actuel, c'était peut-être parce que notre esprit est le vieux Protée, qui ne peut rester esclave d'aucune forme, et même dans le domaine mondain, se dégage soudain d'un salon arrivé lentement et difficilement à son point de perfection, pour préférer un salon moins brillant, comme les photographies retouchées qu'Odette avait fait faire chez Otto, où, élégante, elle était en grande robe princesse et ondulée par l'entérique. Ne plaisait pas tant à Swann qu'une petite carte-album faite à Nice, où, en capeline de drap, les cheveux mal arrangés dépassant un chapeau de paille brodé de pensée avec un nœud de velours noir, de 20 ans plus jeune, les femmes ayant généralement l'air d'autant plus vieux que les photographies sont plus anciennes. Elle avait l'air d'une petite bonne qui aurait eu 20 ans de plus. Peut-être aussi avait-il plaisir à me vanter ce que je ne connaîtrais pas, à me montrer qu'il avait goûté des plaisirs que je ne pourrais pas avoir. Il y réussissait du reste, car rien qu'en citant les noms de 2 ou 3 personnes qui n'existaient plus, et à chacune desquelles il donnait quelque chose de mystérieux par sa manière d'en parler, de ses intimités délicieuses, je me demandais ce qu'il avait pu être. Je sentais que tout ce qu'on m'avait raconté des Verdurin était beaucoup trop grossier. Et même Swann, que j'avais connu, je me reprochais de ne pas avoir fait assez attention à lui, de n'y avoir pas fait attention avec assez de désintéressement, de ne pas l'avoir bien écouté quand il me recevait, en attendant que sa femme rentrât déjeuner et qu'il me montrait de belles choses. Maintenant que je savais qu'il était comparable à l'un des plus beaux causeurs d'autrefois. Au moment d'arriver chez Madame Verdurin, j'aperçus Monsieur de Charlus naviguant vers nous de tout son corps énorme, traînant sans le vouloir à sa suite un de ces apaches ou mendigos que son passage faisait maintenant infailliblement surgir, même des coins en apparence les plus déserts, et dont ce monstre puissant était, bien malgré lui, toujours escorté, quoiqu'à quelque distance, comme le requin par son pilote, enfin contrastant tellement avec l'étranger hautain de la première année de Balbec, à l'aspect sévère, à l'affectation de virilité, qu'il me sembla découvrir, accompagné de son satellite, un astre à une toute autre période de sa révolution, et qu'on commence à voir dans son plein. Ou un malade, envahi maintenant par le mal qui n'était, il y a quelques années, qu'un léger bouton qu'il dissimulait aisément et dont on ne soupçonnait pas la gravité. Bien que l'opération qu'avait subie Brichot lui eût rendu un tout petit peu de cette vue qu'il avait cru perdre pour jamais, je ne sais s'il avait aperçu le voyou attaché au pas du baron. Il importait peu du reste, car depuis la Raspelière, et malgré l'amitié que l'universitaire avait pour lui, la présence de Monsieur de Charlus lui causait un certain malaise. Sans doute, pour chaque homme, la vie de tout autre prolonge dans l'obscurité des sentiers qu'on ne soupçonne pas. Le mensonge, pourtant, si souvent trompeur, et dont toutes les conversations sont faites, cache moins parfaitement un sentiment d'inimitié ou d'intérêt, ou une visite qu'on veut avoir l'air de ne pas avoir faite, ou une escapade avec une maîtresse d'un jour et qu'on veut cacher à sa femme, qu'une bonne réputation ne recouvre, à ne pas les laisser deviner, des mœurs mauvaises. Elles peuvent être ignorées toute la vie. Le hasard d'une rencontre sur une jetée, le soir, les révèle. Encore ce hasard est-il souvent mal compris, et il faut qu'un tiers, averti, vous fournisse l'introuvable mot que chacun ignore. Mais, su, elles effraient, parce qu'on y sent affluer la folie, bien plus que par moralité. Madame de Surgy n'avait pas un sentiment moral le moins du monde développé, et elle eût admis de ses fils n'importe quoi qu'eût avili et expliqué l'intérêt, qui est compréhensible à tous les hommes. Mais elle leur défendit de continuer à fréquenter Monsieur de Charlus quand elle apprit que, par une sorte d'horlogerie à répétition, il était comme fatalement amené, à chaque visite, à leur pincer le menton et à le leur faire pincer l'un l'autre. Elle éprouva ce sentiment inquiet du mystère physique qui fait se demander si le voisin avec qui on avait de bons rapports n'est pas atteint d'anthropophagie et, aux questions répétées du baron, « Est-ce que je ne verrai pas bientôt les jeunes gens ?» Elle répondit, sachant les foudres qu'elle accumulait sur elle, qu'ils étaient très pris par leurs cours, les préparatifs d'un voyage, etc. L'irresponsabilité aggrave les fautes et même les crimes, quoi qu'on en dise. Landru a supposé qu'il ait réellement tué ses femmes. S'il l'a fait par intérêt, à quoi l'on peut résister ? Peut-être gracié, mais non si ce fut par un sadisme irrésistible. Les grosses plaisanteries de Brichot, au début de son amitié avec le baron, avaient fait place chez lui, dès qu'il s'était agi non plus de débiter des lieux communs, mais de comprendre, à un sentiment pénible, que voilait la gaieté. Il se rassurait en récitant des pages de Platon, des vers de Virgile, parce qu'aveugle d'esprit aussi, il ne comprenait pas qu'alors, aimer un jeune homme était comme aujourd'hui. Les plaisanteries de Socrate le révèlent mieux que les théories de Platon. Entretenir une danseuse, puis se fiancer. Monsieur de Charlus lui-même ne l'eût pas compris. Lui qui confondait sa manie avec l'amitié, qui ne lui ressemble en rien. Et les athlètes de Praxitèle avec de dociles boxeurs. Il ne voulait pas voir que depuis 1900 ans, un courtisan dévot sous un prince dévot eût été athée sous un prince athée, a dit la Bruyère. Toute l'homosexualité de coutume, celle des jeunes gens de Platon comme des bergers de Virgile, a disparu, que seuls surnagent et se multiplient l'involontaire, la nerveuse, celle qu'on cache aux autres et qu'on travestit à soi-même. Et monsieur de Charlus aurait eu tort de ne pas renier franchement la généalogie païenne. En échange d'un peu de beauté plastique, que de supériorité morale. Le berger de Théocrite qui soupire pour un jeune garçon, plus tard n'aura aucune raison d'être moins dur de cœur et d'esprit plus fin que l'autre berger dont la flûte résonne pour Amaryllis. Car le premier n'est pas un teint d'un mâle, il obéit au mode du temps. C'est l'homosexualité survivante malgré les obstacles, honteuse, flétrie, qui est la seule vraie, la seule à laquelle puisse correspondre, chez le même être, un affinement des qualités morales. On tremble au rapport que le physique peut avoir avec celle-ci quand on songe aux petits déplacements de goût purement physique, à la tare légère d'un sens, qui explique que l'univers des poètes et des musiciens, si fermé au duc de Guermantes, s'en trouve pour M. de Charlus. Que ce dernier ait du goût dans son intérieur, qui est d'une ménagère bibeloteuse, cela ne surprend pas. Mais l'étroite brèche qui donne jour sur Beethoven et sur Véronèse, cela ne dispense pas les gens sains d'avoir peur quand un fou qui a composé un sublime poème, leur ayant expliqué par les raisons les plus justes qu'il est enfermé par erreur, par la méchanceté de sa femme, les suppliant d'intervenir auprès du directeur de l'asile, gémissant sur les promiscuités qu'on lui impose, conclut ainsi. « Tenez, celui qui va venir me parler dans le préau, dont je suis obligé de subir le contact, croit qu'il est Jésus-Christ. Or, cela seul suffit à me prouver avec quels aliénés on m'enferme. Il ne peut pas être Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, c'est moi. » Un instant auparavant, on était prêt à aller dénoncer l'erreur au médecin aliéniste. Sur ces derniers mots, et même si on pense à l'admirable poème auquel travaille chaque jour le même homme, on s'éloigne, comme les fils de Madame de Surgis s'éloignaient de Monsieur de Charlus. Non qu'il leur eût fait aucun mal, mais à cause du luxe d'invitation dont le terme était de leur pincer le menton. Le poète est à plaindre, et qui n'est guidé par aucun Virgile, d'avoir à traverser les cercles d'un enfer de soufre et de poids, de se jeter dans le feu qui tombe du ciel pour en ramener quelques habitants de Sodome. Aucun charme dans son œuvre, la même sévérité dans sa vie qu'aux défroqués qui suivent la règle du célibat le plus chaste, pour qu'on ne puisse pas attribuer à autre chose qu'à la perte d'une croyance d'avoir quitté la soutane. Faisant semblant de ne pas voir le louche individu qui lui avait emboîté le pas, quand le baron se hasardait sur les boulevards ou traversait la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare, ses suiveurs se comptaient par douzaines qui, dans l'espoir d'avoir une thune, ne le lâchaient pas. Et de peur que l'autre ne s'enhardît à lui parler, le baron baissait dévotement ses cils noircis qui, contrastant avec ses joues poudrerisées, le faisait ressembler à un grand inquisiteur peint par le Gréco. Mais ce prêtre faisait peur et avait l'air d'un prêtre interdit. Diverses compromissions auxquelles l'avait obligé la nécessité d'exercer son goût et d'en protéger le secret, ayant eu pour effet d'amener à la surface du visage précisément ce que le baron cherchait à cacher. Une vie crapuleuse racontée par la déchéance morale. Celle-ci, en effet, quelle qu'en soit la cause, se lit aisément, car elle ne tarde pas à se matérialiser et prolifère sur un visage, particulièrement dans les joues et autour des yeux, aussi physiquement que s'y accumulent les jaunes au creux dans une maladie de foie ou les répugnantes rougeurs dans une maladie de peau. Ce n'était pas d'ailleurs seulement dans les joues, ou mieux, les bas-joues de ce visage fardé, dans la poitrine tétonnière, la croupe rebondie de ce corps livré au laisser-aller et envahi par l'embonpoint, que surnageait maintenant, étalé comme de l'huile, le vice jadis si intimement renfoncé par M. de Charlus au plus secret de lui-même. Il débordait maintenant dans ses propos.
« C'est comme ça, Brichot, que vous vous promenez la nuit avec un beau jeune homme ?»
dit-il en nous abordant, cependant que le voyou désappointé s'éloignait.
« C'est du beau, on le dira à vos petits élèves de la Sorbonne, que vous n'êtes pas plus sérieux que cela. »
Du reste, la compagnie de la jeunesse vous réussit, monsieur le professeur. Vous êtes frais comme une petite rose. Je vous ai dérangé. Vous aviez l'air de vous amuser comme deux petites folles, et vous n'aviez pas besoin d'une vieille grand-maman rabat-joie comme moi. Je n'irai pas à confesse pour cela, puisque vous étiez presque arrivé. Le baron était d'humeur d'autant plus gaie qu'il ignorait entièrement la scène de l'après-midi. Jupien ayant jugé plus utile de protéger sa nièce contre un retour offensif que d'aller prévenir M. de Charlus. Aussi, celui-ci croyait-il toujours au mariage, et s'en réjouissait-il. On dirait que c'est une consolation pour ces grands solitaires que de donner à leur célibat tragique l'adoucissement d'une paternité fictive.
« Mais ma parole, Brichot !» ajouta-t-il en se tournant en riant vers moi. « J'ai du scrupule en vous voyant en si galante compagnie. Vous aviez l'air de deux amoureux. Bras dessus, bras dessous, dites donc, Brichot, vous en prenez des libertés. »
Fallait-il attribuer pour cause à de telles paroles le vieillissement d'une telle pensée, moins maîtresse que jadis de ses réflexes, et qui, dans des instants d'automatisme, laisse échapper un secret si soigneusement enfoui pendant 40 ans? Ou bien était-ce dédain pour l'opinion des roturiers, qu'avaient au fond tous les guermantes, et dont le frère de M. de Charlus, le duc, présentait une autre forme, quand, fort insoucieux que ma mère pût le voir, il se faisait la barbe en chemise de nuit ouverte à sa fenêtre. M. de Charlus avait-il contracté, durant les trajets brûlants de Doncières à Deauville, la dangereuse habitude de se mettre à l'aise? Et comme il y rejetait en arrière son chapeau de paille pour rafraîchir son énorme front, de desserrer au début, pour quelques instants seulement, le masque depuis trop longtemps rigoureusement attaché à son vrai visage. Les manières conjugales de M. de Charlus avec Morel auraient à bon droit étonné qui les aurait entièrement connues.
mais il était arrivé à Monsieur de Charlus que la monotonie des plaisirs qu'offre son vice l'avait lassé. Il avait instinctivement cherché de nouvelles performances, et après s'être fatigué des inconnus qu'il rencontrait, était passé au pôle opposé, à ce qu'il avait cru qu'il détesterait toujours, à l'imitation d'un ménage ou d'une paternité. Parfois, cela ne lui suffisait même plus. Il lui fallait de nouveau. Il allait passer la nuit avec une femme, de la même façon qu'un homme normal peut, une fois dans sa vie, avoir voulu coucher avec un garçon, par une curiosité semblable, inverse, et dans les deux cas, également malsaine. L'existence de fidèle du baron, ne vivant à cause de Charlie que dans le petit clan, avait eu, pour briser les efforts qu'il avait fait longtemps pour garder des apparences menteuses, la même influence qu'un voyage d'exploration ou un séjour aux colonies chez certains Européens, qui perdent les principes directeurs qui les guidaient en France. Et pourtant, la révolution interne d'un esprit, ignorant au début de l'anomalie qu'il portait en soi, plus épouvanté devant elle quand il l'avait reconnue, et enfin s'étant familiarisé avec elle jusqu'à ne plus s'apercevoir qu'on ne pouvait sans danger avouer aux autres ce qu'on avait fini par s'avouer sans honte à soi-même, avait été plus efficace encore pour détacher M. de Charlus des dernières contraintes sociales que le temps passé chez les Verdurin. Il n'est pas, en effet, d'exil au pôle sud ou au sommet du Mont-Blanc qui nous éloigne autant des autres qu'un séjour prolongé au sein d'un vice intérieur, c'est-à-dire d'une pensée différente de la leur. Vice. Ainsi M. de Charlus le qualifiait-il autrefois, auquel le baron prêtait maintenant la figure débonnaire d'un simple défaut, fort répandu, plutôt sympathique et presque amusant, comme la paresse, la distraction ou la gourmandise. Sentant les curiosités que la particularité de son personnage excitait, M. de Charlus éprouvait un certain plaisir à les satisfaire, à les piquer, à les entretenir. De même que tel publiciste juif se fait chaque jour le champion du catholicisme, non pas probablement avec l'espoir d'être pris au sérieux, mais pour ne pas décevoir l'attente des rieurs bienveillants, M. de Charlus flétrissait plaisamment les mauvaises mœurs dans le petit clan, comme il eût contrefait l'anglais ou imité Mounet Sully sans attendre qu'on l'en priât et pour payer son écho avec bonne grâce en exerçant en société un talent d'amateur. De sorte que M. de Charlus menaçait Brichot de dénoncer à la Sorbonne qu'il se promenait maintenant avec des jeunes gens, de la même façon que le chroniqueur circoncis parle à tout propos de la fille aînée de l'Église et du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, c'est-à-dire sans ombre de tartufferie, mais avec une pointe de cabotinage. Ce n'est pas seulement du changement des paroles elles-mêmes, si différentes de celles qu'il se permettait autrefois, qu'il serait curieux de chercher l'explication, mais encore de celui survenu dans les intonations, les gestes, qui, les uns et les autres, ressemblaient singulièrement maintenant à ce que M. de Charlus flétrissait le plus âprement autrefois. Il poussait maintenant, involontairement, presque les mêmes petits cris, chez lui involontaires et d'autant plus profonds, que jettent volontairement, eux, les invertis qui s'interpellent en s'appelant « ma chère », comme si ce « chichi voulu » dont M. de Charlus avait pris si longtemps le contre-pied, n'était en effet qu'une géniale et fidèle imitation des manières qu'arrivent à prendre, quoi qu'ils en aient, les Charlus, quand ils sont arrivés à une certaine phase de leur mal, comme un paralytique général ou un ataxique finissent fatalement par présenter certains symptômes. En réalité, et c'est ce que ce chichi tout intérieur révélait, il n'y avait, entre le sévère Charlus tout de noir habillé, aux cheveux en brosse, que j'avais connu, et les jeunes gens fardés, chargés de bijoux, que cette différence purement apparente qu'il y a entre une personne agitée qui parle vite, remue tout le temps, et un névropathe qui parle lentement, conserve un flegme perpétuel, mais est atteint de la même neurasthénie aux yeux du clinicien qui sait que celui-ci, comme l'autre, est dévoré des mêmes angoisses et frappé des mêmes tares. Du reste, on voyait que M. de Charlus avait vieilli, à des signes tout différents, comme l'extension extraordinaire qu'avait prise dans sa conversation certaines expressions qui avaient proliféré et qui revenaient maintenant à tout moment. Par exemple, l'enchaînement des circonstances, et auquel la parole du baron s'appuyait de phrase en phrase comme à un tuteur nécessaire. « Est-ce que Charlie est déjà arrivé ?» demanda Brichot à M. de Charlus comme nous apercevions la porte de l'hôtel. « Ah, je ne sais pas !» dit le baron en levant les mains et en fermant à demi les yeux, de l'air d'une personne qui ne veut pas qu'on l'accuse d'indiscrétion. D'autant plus qu'il avait eu probablement des reproches de Morel pour des choses qu'il avait dites, et que celui-ci, froussard autant que vaniteux, et reniant M. de Charlus aussi volontiers qu'il se paraît de lui, avait cru grave, quoique en réalité insignifiante. « Vous savez que je ne sais rien de ce qu'il fait. » Si des conversations de deux personnes qui ont entre elles une liaison sont pleines de mensonges, ceux-ci ne naissent pas moins naturellement dans les conversations qu'un tiers a avec un amant au sujet de la personne que ce dernier aime, quel que soit d'ailleurs le sexe de cette personne. « Il y a longtemps que vous l'avez vu ?» demandai-je à M. de Charlus pour avoir l'air à la fois de ne pas craindre de lui parler de Morel et de ne pas croire qu'il vivait complètement avec lui. « Il est venu par hasard 5 minutes ce matin, pendant que j'étais encore à demi endormie, s'asseoir sur le coin de mon lit comme s'il voulait me violer. » J'eus aussitôt l'idée que M. de Charlus avait vu Charlie il y a 1 heure. Car quand on demande à une maîtresse quand elle a vu l'homme qu'on sait, et qu'elle suppose peut-être qu'on croit être son amant, et si elle a goûté avec lui, elle répond « Je l'ai vu un instant avant déjeuner. » Entre ces deux faits, la seule différence est que l'un est mensonger et l'autre vrai, mais l'un est aussi innocent, ou, si l'on préfère, aussi coupable. Aussi ne comprendrait-on pas pourquoi la maîtresse, et ici M. de Charlus, choisit toujours le fait mensonger, et l'on ne savait pas que les réponses sont déterminées, à l'insu de la personne qui les fait, par un nombre de facteurs, qui semblent en disproportion telle avec la minceur du fait qu'on s'excuse d'en faire état. Mais pour un physicien, la place qu'occupe la plus petite balle de sureau s'explique par la concordance d'action, le conflit ou l'équilibre, de lois d'attraction ou de répulsion qui gouvernent des mondes bien plus grands. Ne mentionnons ici que pour mémoire le désir de paraître naturel et hardi, le geste instinctif de cacher un rendez-vous secret, un mélange de pudeur et d'ostentation, le besoin de confesser ce qui vous est si agréable et de montrer qu'on est aimé, une pénétration de ce que sait ou suppose, et ne dit pas, l'interlocuteur, pénétration qui, allant au-delà ou en deçà de la sienne, le fait tantôt sûr et tantôt sous-estimé, le désir involontaire de jouer avec le feu et la volonté de faire la part du feu. Tout autant de lois différentes, agissant en sens contraire, dictent les réponses plus générales touchant l'innocence, le platonisme, ou au contraire, la réalité charnelle des relations qu'on a avec la personne qu'on dit avoir vue le matin quand on l'a vue le soir. Toutefois, d'une façon générale, disons que M. de Charlus, malgré l'aggravation de son mal qui le poussait perpétuellement à révéler, à insinuer, parfois tout simplement à inventer des détails compromettants, cherchait, pendant cette période de sa vie, à affirmer que Charlie n'était pas de la même sorte d'homme que lui, Charlus, et qu'il n'existait entre eux que de l'amitié. Cela n'empêchait pas, et bien que ce fût peut-être vrai, que parfois il se contredit, comme pour l'heure où il l'avait vu en dernier lieu. Soit qu'il dit alors, en s'oubliant, la vérité, ou proférât un mensonge, pour se vanter, ou par sentimentalisme, ou trouvant spirituel d'égarer l'interlocuteur. « Vous savez qu'il est pour moi, » continua le baron, « un bon petit camarade, pour qui j'ai la plus grande affection, comme je suis sûr. » En doutait-il donc qu'il éprouva le besoin de dire qu'il en était sûr ?« Qu'il a pour moi, mais il n'y a entre nous rien d'autre, pas ça, vous entendez bien, pas ça !» dit le baron aussi naturellement que s'il avait parlé d'une femme. « Oui, il est venu ce matin me tirer par les pieds. Il sait pourtant que je déteste qu'on me voie coucher. Pas vous ? Oh, c'est une horreur, ça dérange, on est laid à faire peur. Je sais bien que je n'ai plus 25 ans, et je ne pose pas pour la rosière. Mais on garde sa petite coquetterie tout de même. »
Il est possible que le baron fût sincère quand il parlait de Morel comme d'un bon petit camarade, et qu'il dit la vérité plus encore qu'il ne croyait en disant « Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne connais pas sa vie. » En effet, disons, en interrompant pendant quelques instants ce récit, que nous reprendrons aussitôt après cette parenthèse, que nous ouvrons au moment où M. de Charlus, Brichot et moi, nous nous dirigeons vers la demeure de Mme Verdurin. Disons que, peu de temps avant cette soirée, le baron fut plongé dans la douleur et dans la stupéfaction par une lettre qu'il ouvrit par mégarde et qui était adressée à Morel. Cette lettre, laquelle devait par contre-coup me causer de cruels chagrins, était écrite par l'actrice Léa, célèbre pour le goût exclusif qu'elle avait pour les femmes. Or, sa lettre à Morel, que M. de Charlus ne soupçonnait même pas la connaître, était écrite sur le ton le plus passionné. Sa grossièreté empêche qu'elle soit reproduite ici, mais on peut mentionner que Léa ne lui parlait qu'au féminin en lui disant « Grande sale, va, ma belle chérie, toi tu en es au moins, etc. » Et dans cette lettre, il était question de plusieurs autres femmes qui ne semblaient pas être moins amies de Morel que de Léa. D'autre part, la moquerie de Morel à l'égard de M. de Charlus et de Léa à l'égard d'un officier qu'il entretenait et dont elle disait « Il me supplie dans ses lettres d'être sage. Tu parles, mon petit chat blanc !» ne révélait pas à M. de Charlus une réalité moins insoupçonnée de lui que n'étaient les rapports si particuliers de Morel avec Léa. Le baron était surtout troublé par ces mots en être. Après l'avoir d'abord ignoré, il avait enfin, depuis un temps bien long déjà, appris que lui-même en était. Or, voici que cette notion qu'il avait acquise se trouvait remise en question. Quand il avait découvert qu'il en était, il avait cru par là apprendre que son goût, comme dit Saint-Simon, n'était pas celui des femmes. Or, voici que pour Morel, cette expression « en être » prenait une extension que M. de Charlus n'avait pas connue, tant et si bien que Morel prouvait, d'après cette lettre, qu'il « en était » en ayant le même goût que des femmes pour des femmes même. Dès lors, la jalousie de M. de Charlus n'avait plus de raison de se borner aux hommes que Morel connaissait, mais allait s'étendre aux femmes elles-mêmes. Ainsi, les êtres qui « en étaient » n'étaient pas seulement ceux qu'il avait cru, mais toute une immense partie de la planète, composée aussi bien de femmes que d'hommes, aimant non seulement les hommes mais les femmes. Et le baron, devant la signification nouvelle d'un mot qui lui était si familier, se sentait torturé par une inquiétude de l'intelligence autant que du cœur, née de ce double mystère, où il y avait à la fois de l'agrandissement de sa jalousie et de l'insuffisance soudaine d'une définition. M. de Charlus n'avait jamais été dans la vie qu'un amateur. C'est dire que des incidents de ce genre ne pouvaient lui être d'aucune utilité. Il faisait dériver l'impression pénible qu'il en pouvait ressentir
en scène violente où il savait être éloquent, ou en intrigue sournoise. Mais pour un être de la valeur d'un Bergotte, par exemple, ils eussent pu être précieux. C'est même peut-être ce qui explique en partie, puisque nous agissons à l'aveuglette, mais en choisissant comme les bêtes la plante qui nous est favorable, que des êtres comme Bergotte aient vécu généralement dans la compagnie de personnes médiocres, fausses et méchantes. La beauté de celle-ci suffit à l'imagination de l'écrivain, exalte sa bonté, mais ne transforme en rien la nature de sa compagne, dont, paraît clair, la vie située des milliers de mètres au-dessous, les relations invraisemblables, les mensonges poussés au-delà, et surtout dans une direction différente de ce qu'on aurait pu croire, apparaissent de temps à autre. Le mensonge parfait, sur les gens que nous connaissons, sur les relations que nous avons eues avec eux, sur notre mobile dans telle action formulée par nous d'une façon toute différente, le mensonge sur ce que nous sommes, sur ce que nous aimons, sur ce que nous éprouvons à l'égard de l'être qui nous aime, et qui croit nous avoir façonné semblable à lui parce qu'il nous embrasse toute la journée. Ce mensonge-là est une des seules choses au monde qui puisse nous ouvrir des perspectives sur du nouveau, sur de l'inconnu, qui puisse éveiller en nous des sens endormis pour la contemplation d'univers que nous n'aurions jamais connu. Il faut dire, pour ce qui concerne M. de Charlus, que s'il fut stupéfait d'apprendre, relativement à Moret, un certain nombre de choses que celui-ci lui avait soigneusement cachées, il eut tort d'en conclure que c'est une erreur de se lier avec des gens du peuple. On verra, en effet, dans le dernier volume de cet ouvrage, M. de Charlus lui-même en train de faire des choses qui eussent encore plus stupéfié les personnes de sa famille et de ses amis, que n'avait pu faire pour lui la vie révélée par Léa. La révélation qui lui avait été le plus pénible avait été celle d'un voyage que Morel avait fait avec Léa, alors qu'il avait assuré à M. de Charlus qu'il était en ce moment-là à étudier la musique en Allemagne. Il s'était servi, pour échafauder son mensonge, de personnes bénévoles à qui il avait envoyé ses lettres en Allemagne, d'où on les réexpédiait à M. de Charlus, qui d'ailleurs était tellement convaincu que Morel y était qu'il n'eut même pas regardé le timbre de la poste. Mais il est temps de rattraper le baron qui s'avance, avec Brichot et moi, vers la porte des Verdurins.